Vous écoutez
RMC. RMC. Le bras de fer GG.
Balle de match numéro 2 pour Yannick Sinner, qui va peut-être décrocher sa première finale ici sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Le silence se fait. Deuxième balle dedans. Retour moyen de Djokovic. Sinner, voilà, ça va dans le filet. Et Yannick Sinner décroche sa place en finale de Roland-Garros. Et jouera donc Alcaraz dimanche. Quel régal. C'était un sacré combat. Belle poignée de main. Beaucoup de respect entre les deux. Je ne sais pas si Djokovic parviendra un jour à remporter le 25e. Je pense qu'il aura une fenêtre de tir à Wimbledon et ce sera peut-être la dernière.
Une main sur la terre battue, un discours énigmatique, il n'en fallait pas plus pour créer l'émoi. Hier soir, Novak Djokovic a donc été éliminé en demi-finale de Roland-Garros par Yannick Sinner en 3-7. Le Serbe est tombé avec les honneurs, c'est vrai, après 3h16 de haute lutte. L'homme aux 24 grands chelems n'est pas sorti comme d'habitude du cours Philippe Châtrier. Des applaudissements prolongés au public parisien, une émotion palpable et un discours après la rencontre qui laisse planer le doute. Est-ce la dernière de Djoko à Roland? On va se poser des questions, on va tenter d'analyser ce qui s'est passé hier soir, Porte d'Auteuil. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis, c'est Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Indéniablement, et tu l'as senti venir, il s'est passé quelque chose hier soir.
Ouais, il était 22h30 précise et c'est vrai, on a entendu dans le sujet la poignée de main qui était belle, mais ce qui s'est passé derrière était encore plus fort émotionnellement puisque Novak Djokovic, comme la tradition le veut, c'est le battu, donc il quitte le premier le court et il va pas tout droit. Il bifurque un peu, il se dirige vers le milieu du central, il pose ses sacs et là il remercie le public parce que il le dira plus tard, il avait jamais autant été encouragé par les Parisiens. Et c'est vrai qu'on se souvient des matchs contre Nadal et Federer. Il était dans la peau du... C'était pas lui le héros. Hein. On poussait tous derrière Rod et Rafa. Et donc il pose son sac, ovation monstre des spectateurs. Il reprend son sac et là je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il fait trois pas, il repose l'un de ses deux sacs, il embrasse sa main et il pose sa main sur l'ocre sacré. Et là tu te dis oula, il se passe un truc. Moi là j'interprète c'est la fin du voyage. Une demi-heure plus tard, il vient en conférence de presse et là les mots sont très forts.
This could have been the last match ever I played here.
Cela aurait pu être mon dernier match. Je ne sais pas si c'était mon jubilé. Cela aurait été une belle ambiance jusqu'à la fin.
My career was a wonderful one in terms of the atmosphere and what I got from the crowd. I said it could have been my last match.
J'ai dit que c'était peut-être mon dernier match, mais pas que ça l'était, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer en 12 mois.
I don't know right now. 12 months.
Alors, ce ne sont pas les paroles d'un retraité, parce que il l'a réaffirmé plus tard. Il veut jouer Wimbledon, avec le désir de le gagner, on sait qu'il adore le gazon, il veut aller à l'US Open, mais après, ça lui paraît tellement loin, Roland-Garros, que oui, c'est probablement le dernier match de sa carrière. Et ensuite, en conférence de presse, Yannick Sinner est arrivé et un journaliste lui a informé des déclarations du Serbe. Écoutez.
I didn't know that. Well, first of all, we hope that it's not that the case.
Je ne le savais pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Je pense que le tennis a besoin de lui d'une certaine manière. Avoir quelqu'un différent des jeunes, c'est vraiment bien. Et puis, c'est incroyable de le voir dans le vestiaire et l'énergie qu'il dégage. Je l'ai vu s'entraîner il y a quelques jours. Il est très précis dans tout ce qu'il fait. C'est un vrai modèle pour nous tous.
Il était minuit 30.
Si c'était le cas, je suis heureux d'en faire partie parce que c'est une page d'histoire. Mais on va espérer que ce ne soit pas le cas. Il a dit peut-être, donc on ne sait jamais.
Je vous cache pas qu'il était minuit 30 dans la salle de presse de Roland. On était tous un peu sous choc parce que ouais, on a le sentiment d'avoir vécu un moment historique.
Ok les GG, quand vous entendez ce que vient de nous raconter Eric Salio, vous avez entendu aussi les deux joueurs, Yannick Sinner, Novak Djokovic, comment vous l'interprétez? Est-ce que pour vous c'est la dernière de Djoko à Roland, Fred Weiss?
Oui, oui, et j'espère que ce soit sa dernière, parce que c'était trop magnifique, c'était incroyable, c'était ces sensations, la chair de poule, comment partir mieux que ça? Il est parti, il était encore compétitif. Il faut employer le conditionnel. Il serait parti alors qu'il est compétitif, qu'il a été bon, qu'il a été acclamé par le public. Il embrasse le sol Je trouve que tout serait parfait. On a envie de voir nos idoles arrêter alors qu'ils sont encore compétitifs. Il l'est. Ça serait un départ magnifique. On serait tous ravis de ça. Et des étoiles dans les yeux. Je sais que certains qui ne sont pas romantiques à cette table penseront peut-être le contraire. Je pense à Fred Le Canu. Mais en tant que romantique,
tu l'es créé en un mot, deux mots, romantique.
Pardon?
Je peux être romantique aussi, tu vas le voir dans quelques instants.
Ça m'étonne pas, je suis pas sûr.
Vas-y, Fred Le Canu, t'as été interpellé.
Bon, j'adore le côté poétique de mon ami Fred. Maintenant, on va parler de la réalité des choses. Moi, je te fais le pari qu'il sera là l'année prochaine. Pour une raison toute simple, le business. Parce que la réalité, vous m'avez raconté, et en plus, je suis d'accord avec vous, c'est magnifique. Le timing est super, il a envie d'arrêter, on est en suspension. Et tu sais quoi? Ça vaut beaucoup d'argent de revenir l'année prochaine. Et les athlètes de haut niveau, à un moment donné, t'as jamais gagner autant d'argent sur le sponsoring, sur tout ce que ça concerne autour, au moment où t'es au plus connu, au plus haut.
Fred, tu peux pas te mentir, tu sais mieux que personne, tu peux pas te mentir quand t'es un sportif au haut niveau. C'est-à-dire que.
Ah non, je te dis pas ça, Fred.
Aller à l'entraînement, ça te coûte, c'est dur.
Tu sais c'est que pas
ça
du dur. Tout ce que je te dis. Je te dis qu'il est pris dans une nasse. Et je te donne un exemple très précis. Et je te donne un exemple très précis, c'est Nadal. Nadal, tu crois que les derniers matchs qu'il a fait, il avait envie de les faire? Moi, je suis pas persuadé. Moi, je pense les derniers. Tu crois que moi, je pense qu'il est pris dans un engrenage où il est obligé de faire parce que derrière lui, il y a une dimension économique, il y a des staffs, il y a des choses.
Je peux te donner son prize money.
Ils sont au-delà de ça. Ils ont gagné tellement de millions.
187 millions de gains. Tu crois qu'il est à sa prêt, franchement.
Vous savez quoi? Rendez-vous ici, ce jour même là. On sera ensemble sur ce plateau pour Roland Garros.
Tu parles de la dimension économique. Là où je peux te rejoindre et je vais aller voir Christophe et David sur ce sujet. Et Sarah Pitkowski va nous rejoindre dans quelques instants pour avoir aussi son avis. C'est plutôt la dimension émotionnelle. Est-ce qu'à chaque fois un champion, et on en a souvent parlé dans cette émission, n'a pas envie de remettre comme ça le couvert? Non, mais c'est parce qu'il se croit à un moment donné éternel.
Là, il se ménage quand même une éventuelle porte de sortie. Je pense qu'hier soir, il avait vraiment envie de dire au revoir, je m'en vais, mais il s'est retenu parce que on sait jamais si je suis encore hyper performant, si je gagne Wimbledon, si je gagne l'US Open ou que je vais en finale, je pourrais peut-être faire un dernier Roland. Je suis persuadé qu'hier soir, il a eu envie de dire, et ça aurait été génial, parce que là, personne ne le savait, et au moment de quitter le central, s'il avait dit, messieurs, dames, public de Roland-Garros, vous me découvrez enfin, vous m'aimez enfin, après toutes ces années de désamour entre nous, eh bien, c'est sur ce cri d'amour que je vous dis, je quitte Roland-Garros. Là, tu t'imagines le truc? Ah, ça aurait été fantastique. Le scénario aurait été dingue. Mais je pense qu'il se garde toujours une petite porte de sortie, comme l'avait fait Nadal, comme l'avait fait Federer. C'est difficile pour ces mecs-là d'arrêter d'un coup, de dire, c'est la dernière. Ils ont toujours eu la petite envie et l'espoir, le secret espoir, de continuer à être hyper performants. Mais hier, franchement, Sinner est une machine. C'est un fantastique joueur. Mais Djoko, je veux dire, à son âge, il bat 99% des joueurs de la Terre avec ce tennis-là. C'est dingue. Donc moi, ça me rend triste de le voir arrêter Roland Garros ou sa carrière de tennisman. Parce que quel talent,
mais c'est pas
et quelle volonté.
C'est pas
mais
pas
oui, oui, oui,
je suis d'accord.
Oui, mais pourquoi monsieur?
On va laisser parler David Douillet, mais vous vous rendez compte quand même que Novak Djokovic, il a écrasé tout le monde et à chaque fois on disait oh là là, ça va, il va encore gagner. Il n'était pas soutenu parce qu'il écrasait tout le monde. Et c'est au moment où il écrase plus tout le monde que tout le monde se dit waouh, on l'adore Novak Djokovic.
C'est le dernier des trois.
Qu'est-ce que c'est injuste pour lui quand même. Il a applaudi, il a acclamé le jour où en fait il peut pas gagner. La réalité c'est ça.
Franchement, il donne quelque chose. Il donne quelque chose de plus au public parce que Sinner, fantastique joueur, mais alors c'est un robot quoi. C'est un robot.
Oui, mais c'était pareil avec Djoko quand il était plus jeune, en fait.
Non, il imitait Nadal, il imitait Federer, il était
déçu.
C'était une personnalité.
Je suis déçu, les copains, parce qu'il n'y a personne autour de cette table qui a fait l'effort de se mettre dans la tête de Djokovic. Aujourd'hui, c'est non, le joueur. Ça rentrait pas, retente encore une fois.
C'est pour ça que tu es dans cette émission, David. Vas-y.
Non, mais aujourd'hui, c'est le joueur le plus âgé qui a fait une demi-finale à Roland Garros, 38 ans et demi. Voilà. Bien sûr que c'est pas l'argent qui le motive. Bien sûr que c'est pas le modèle économique qui le motive. Tu as tort, Fred Le Canu. Tu as vraiment tort. Il a gagné suffisamment d'argent, etc., etc. Il est sur la fin de son parcours. Il est dans l'entonnoir qui se réduit au fur et à mesure. Il le sait, il le sent, il le voit, et il essaye de trouver une porte de sortie. Et la porte de sortie pour un garçon comme Djokovic, c'est quoi? C'est gagner un tournoi du Grand Chelem. point. Donc pourquoi il dit aujourd'hui, je ne sais pas si je serai là l'année prochaine, ça veut dire que s'il n'a pas gagné Wimbledon ou s'il n'a pas gagné l'US Open, il reviendra à Roland-Garros pour essayer de terminer sa carrière sur une victoire énorme, une mais victoire c'est pas, c'est en grand chelem. Il cherche le point de clôture et c'est tout ce qui l'anime aujourd'hui. Cherche le dernier beau combat et la dernière grande victoire et c'est ça qui l'anime et rien d'autre.
C'est désespérant de constater que ça fait des années non seulement que tu m'écoutes pas mais que tu me comprends pas. Je t'ai pas dit que c'était un problème d'argent. Je t'ai dit que c'était une considération d'un modèle économique, ce qui n'a rien à voir. C'est sa responsabilité. J'ai pas dit qu'il voulait gagner l'argent à chaque fois du match. Je t'ai dit qu'il était responsabilité d'un modèle économique. Et tu le sais très bien. La capacité que t'as eue d'arrêter après Sydney, c'est parce que t'avais anticipé le truc, t'étais déjà parti sur autre chose. Là, pourquoi on dit c'est énigmatique, il sait pas trop.
Oui, mais tu cherches la fin de l'histoire.
Parce qu'il peut pas le dire.
Tu cherches à écrire la fin de l'histoire.
Sportif par rapport à son talent. Parce que toi, tiens, pour faire la comparaison après Sydney, t'étais tellement rôti, mon pauvre David, que tu savais très bien que c'était la fin de l'histoire, alors que lui, peut-être, il en a encore. Oui. Tu le sais. Et derrière lui, potentiellement, physiquement, il peut le faire encore, et qu'il a encore un grand tournoi à gagner.
Et il y a tout un modèle économique derrière qui fait qu'il ne peut pas l'annoncer. C'est ça que tu veux nous dire.
C'est pas vrai. Exactement. C'est pas vrai. Il a l'intelligence, il a le recul pour se dire comment j'écris la fin de mon histoire. C'est tout.
Sarah Pitkowski est avec nous justement pour nous parler de la der de Djoko. Sarah qui va commenter la finale dames sur RMC cet après-midi. Les deux meilleures joueuses au monde, Sabalenka, Coco Gauff. Mais là, parlons de Novak Djokovic. Sarah, quelle est ta lecture? Est-ce que c'était la dernière de Djoko à Roland? Salut Sarah.
Salut les GG. Salut, je vous ai tous écoutés et vous me faites vaciller quand même. Hein. Alors je suis d'accord avec un Fred. Alors lequel?
Oui, lequel?
C'est facile,
le romantique.
Le plus grand. Le plus grand de quelques centimètres. Non, en fait, il y a des choses qui sont forcément justes. Après, quand vous demandez un joueur de tennis qui vient de passer 3h30 sur le terrain, qui est 1h30 après en conf de presse, donc on parle encore d'être à chaud. Il ne peut pas prendre la décision, il ne peut pas se projeter dans un an de ce qui va se passer. Il y a tellement de choses qui rentrent en considération, et vous avez raison, les choses qui rentrent en considération, il y a son état de forme, son état physique. Est-ce que d'ici là, il aura remporté ce fameux 25e titre pour lequel il court aujourd'hui et de battre le record de tous les records? Mais c'est, pour un gars de 38 ans, un an, c'est super long. Donc en fait, il n'aura pas une cérémonie comme Nadal, on est bien d'accord. Il n'a pas marqué Roland-Garros comme Nadal. Donc, s'il revient pas sur ce cours central l'année prochaine, ça lui a traversé l'esprit l'espace de quelques millièmes de secondes. Et il s'est dit, ce cours, j'y reviendrai peut-être pas en tant que joueur de tennis. Donc, il veut en profiter. Et il le dit en conférence, il dit, could be. Il est vraiment dans... En fait, il sait pas. Et je vais vous prendre une comparaison. Gaël, mon fils, on lui a posé la même question, ils ont le même âge. Gaël a dit à la fin de son match, je sais pas. Et là, il a dit, je jouerai encore en 2026. Tu peux pas le dire à chaud, en fait. Enfin, on demande à un sportif d'écrire la dernière page en l'espace d'une heure, une heure et demie de temps après un match aussi intense. Enfin, c'est pas possible à faire. C'est impossible à faire. Et s'il revient à Roland-Garros, je sais pas s'il se dit, je vais aller chercher un titre à Roland-Garros. Je pense que aujourd'hui, le combat qu'il a mené hier, il nous a montré un niveau de tennis qui est tellement exceptionnel. Et en face, c'est meilleur. C'est meilleur avec Sinner, ce sera meilleur avec Alcaraz. Et dans un an, il y aura peut-être encore plusieurs autres joueurs. Musetti, pardon, il va falloir s'en méfier. Donc en fait, ses adversaires sont sur terre battue, ils vont pas diminuer, ils vont augmenter. Donc, et s'il revient, je pense pas que ça soit dans l'esprit de gagner Roland-Garros. Je pense que, comme le disait Christophe Cessieux, effectivement, s'il a une petite chance d'aller gagner le 25e, ce sera plutôt sur surface rapide que sur terre battue.
Alors j'entends ce que tu dis Sarah, tu parles d'un joueur de haut niveau comme ça, et on peut le comprendre, ne peut pas décider en une heure de mettre fin à sa carrière, alors pas immédiate, mais de dire dans un an je ne serai pas là. Et pourtant, à l'issue de la rencontre, alors c'est peut-être à chaud justement, mais c'est à chaud, il embrasse la terre battue, il pose ses sacs, il salue le public. Enfin, je veux dire, il a peut-être improvisé, on a senti qu'il disait au revoir.
Il a pas improvisé. Avant ce genre de match, quand on a son âge, quand on a sa carrière, quand on a son vécu, on a tous les scénarios en tête, on sait ce qui va se passer. On peut soit gagner ce match, soit le perdre de façon plutôt très très bien parce qu'il a été hyper performant. Mais tu sais. Il le sait au fond de lui, et quand il le dit, même s'il est à chaud, il a ce recul, il a cette froideur d'esprit de capable de dire voilà ce que je ressens.
J'étais à sa conf, il était apaisé en conférence de presse.
Mais bien sûr, évidemment.
Totalement apaisé. Totalement, ça
oui,
m'a
frappé. Oui, parce que Eric, il est apaisé parce que il a joué probablement un des meilleurs tennis de ces derniers mois. C'était exceptionnel. Sauf que là, il est obligé de reconnaître une forme d'impuissance. Il y a meilleur que lui, il y aura meilleur que lui maintenant.
Et Sarah, c'est pas pour ça qu'on le reverra pas l'année prochaine. Parce que
non, peut-être, c'est pas pour qu'il, ça
peut-être,
qu'on
peut-être
pas
qu'il a dit adieu,
prochaine.
Peut-être qu'il a dit adieu sur, tu vois, qu'il a touché avec la main et tout, parce qu'il a dit adieu au potentiel de le gagner, parce qu'il a joué de manière optimale. Mmh. Et en jouant de manière optimale, il l'a pas gagné, donc il se dit peut-être que je le gagnerai jamais. Et pour toutes les raisons que j'ai évoquées, qu'il le dépasse. Et Sinner, il dit, ah, il faut pas arrêter et tout, parce qu'il y a une dimension aussi de com, d'avoir Djokovic à Roland Garros. C'est mieux qu'il soit là, qu'il soit pas là, pour toutes les raisons que ça, hein, ça c'est qu'il en décline et qu'il en découle. Ça veut dire que c'est pas pour ça qu'il sera pas là l'année prochaine.
On a un exemple récent.
Ça rentre pas dans son profil psychologique. C'est pas Djoko, on parle pas de Djoko. Il va pas participer à un tournoi. Quand il s'affiche à un tournoi, c'est pour essayer de le gagner. Voilà, c'est tout.
Attends, David, on disait, et je te relance, mais on disait la même chose de Nadal. Et pourtant, Nadal, on a un exemple très récent où il est arrivé à Roland-Garros plus comme une tournée d'adieu, alors que ça nous paraissait impensable 2 ou 3 ans auparavant, comme une tournée d'adieu. Alors, il n'avait pas de chance au tirage parce qu'il chope Zverev au premier tour, mais il ne s'attendait pas à gagner s'il est lucide avec lui-même. Il ne s'attendait pas
Nadal,
à gagner.
Est-ce qu'on est lucide?
Non, mais c'est Nadal, c'est pas Djokovic. Ils n'ont pas du tout le même profil psychologique. C'est pas du tout la même chose.
Alors, on verra ça l'année prochaine, David.
Oui, mais je rejoins David sur le fait que ce sont deux sportifs extraordinaires, hors c'est du différent. Commun, et que leur volonté a toujours été de se lancer dans un tournoi pour le gagner. Enfin, c'est commun aux deux joueurs.
Mais Nadal était en bout.
Oui, c'est commun aux deux joueurs, mais Djoko, il a un cran au-dessus au niveau du mental. Je trouve qu'il a un cran au-dessus.
Alors, tu sens qu'il a quand même un peu, il a besoin de se faire masser pendant le match, mais physiquement, pendant tout le tournoi, il a quand même été au niveau là. Il a fait un match hier digne d'un numéro 2, 3 mondial.
Souvenez-vous, tu vois, moi ce qui m'a donné le plus d'éclairage sur son profil psy, c'est un cabochard, c'est un têtu de premier ordre. Souvenez-vous de l'épisode du Covid et ce qu'il avait décidé, ce qu'il a mis en place envers et contre tout. Il a dit allez vous faire foutre, voilà, à tout le monde, aux organisateurs, au tennis mondial, etc. Moi c'est ma ligne et c'est comme ça. Il est un cran au-dessus, ce garçon. Donc ce garçon avec ce profil là, quand il met les pieds sur un court dans un tournoi du Grand Chelem, c'est pour aller au bout. C'est d'accord. Pas pour faire
David,
la figuration, c'est pas pour faire des photos.
On ira le voir tous les deux, David, l'année prochaine, c'est toi qui paye le billet.
Au tournoi des légendes, vous irez.
Rendez-vous
l'année prochaine, David.
On vous a posé la question sur le compte X des grandes gueules du sport. Était-ce la dernière de Novak Djokovic à Roland? Pour vous, c'est principalement oui à 59%, non 41%.